Manitou, la nation d'Israël, chapitre 38-39, Bereshit Rabba, première bande.
Par patriarche, mais j'ai expliqué dans les séminaires précédents que par rapport à notre sujet en tout cas, il valait mieux le traduire par les pères, parce que cette première période des Avot, les pères, c'est la période d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui ont été les fondateurs d'Israël comme peuple, comme nation. Alors, au fond, la traduction la plus précise, je vous engage d'ailleurs à suivre les conférences de cette semaine, parce que nous allons beaucoup parler des problèmes de traduction de l'hébreu en d'autres langues, et en particulier celle du jeudi de M. Meschonik, qui certainement sera branché sur ce sujet. Et je pense d'ailleurs que l'année prochaine, nous aurons un séminaire, probablement le deuxième, ou le premier, je ne sais pas encore, sur le problème des... nous reprendrons ce problème des langues à un niveau un peu plus, disons, linguistique fouillé, précisément sur le problème des traductions de langue à langue avec le rôle particulier de l'hébreu. Bon, je referme la parenthèse. Et j'ai l'habitude de proposer aux spécialistes le terme français des engendreurs, les avot. Puisqu'effectivement, la définition des avot, que nous traduisons en français par patriarche, mais ça renvoie à une toute autre image, pas la peine d'analyser. Vous voyez tout de suite vers Saint-Germain, comment il s'appelait, non, bref, la barbe fleurie, Charlemagne, Ken. Et effectivement, c'est le sens qui est retenu dans toutes les sources, surtout du Midrash, qui font allusion à la différence d'identité, de l'identité d'Israël, autant des Avot et autant des Banim. Je vous résume ce que nous avons peut-être, avez-vous étudié sur ce sujet déjà une fois, c'est un sujet assez important. C'est que l'être des Avot est un être de promesse et l'être des Banim est un être de réalisation. On étudie cela surtout à travers le commentaire de Rashi dans le livre de l'Exode, lorsque le temps de la réalisation des promesses commence à la sortie d'Égypte, avec Moïse. Et jusque-là, c'était le temps des promesses, le temps des Avot. Or, l'identité Israël nous est à nous, les Banim, nous faisons partie des Bnei Israël. À partir de la sortie d'Égypte, Israël est une collectivité des Bnei Israël. Mais il y a eu un Israël à l'échelle individuelle au temps des Avot. Je pense que la définition est bien claire. Le mot Israël, à partir de la sortie d'Égypte, désigne une collectivité. Et donc, chacun d'entre nous, à l'échelle individuelle, nous sommes des Bnei Israël. Notre identité humaine en tant qu'Israël, c'est une identité de Banim. Il y a deux thèmes sémantiques dans cette racine. Les fils, c'est-à-dire les fils des pères, ceux qui ont été engendrés par les pères, mais les fils, c'est une collectivité. Alors que les pères, c'est désigné à l'échelle singulière, dans le sens singulier, du mot singulier. Ce sont des êtres singuliers qui tout entier sont Israël dans telle ou telle modalité. Mais pour nous, pour être Israël, il faut être toute une collectivité pour être Israël. La charnière, c'est l'identité de Moïse, que le Midrash désigne à propos de ce sujet comme équivalent à tout Israël. Il y a un seul être de notre histoire qui a fait partie et des pères et des fils, si j'ose dire, préfiguré d'ailleurs par l'identité de Joseph, à laquelle nous reviendrons, mais c'est Moïse. Moïse est tout seul, Shakul Keneged Kol Israël, équivalent à tout Israël. Ce qui veut dire que corollairement, il faut tout Israël pour équivaloir à Moïse. C'est le problème de l'étude de la Torah. Moïse est le transmetteur de la Torah à lui tout seul, à l'échelle singulière. Mais pour équivaloir à la Torah de Moïse, il faut l'étude de tout Israël, et de façon permanente. Vous voyez donc les dégagements de cette définition. Alors, l'être des Avot est un être de promesse. C'est-à-dire, la promesse de l'être est donnée par le Créateur aux Avot, mais pour leur fils. Vous retrouverez cela. Je pense que j'ai certainement fait allusion déjà sous d'autres formes, que la parole de la Bible traverse les pères sous forme de promesse, mais concerne les fils. D'Aver el Béni Israël. Et alors que la parole des fils, la parole pour les fils, c'est une parole qui est un engagement de réalisation, d'accomplissement. Bien. La deuxième dimension, c'est que Banim signifie aussi les constructeurs. Les Altikre Banaïr et la Bonaïr sont des textes qui sont assez connus, pour ceux qui les connaissent. C'est-à-dire que la racine d'où vient le mot Ben signifie, bien entendu, l'être engendré, alors que le mot Av, c'est l'être engendreur, mais signifie aussi l'être de construction, l'être construit, le binyan. Il y a aussi d'ailleurs une autre dimension le Zohar met surtout en évidence, c'est l'intelligence, c'est la même racine, Bina. En tout cas, quand je dis la même racine, faites attention, ce sont des radicaux de même semen, comme disent les linguistes. Ils deviennent semences de racines. Et donc, je reviens à notre problème. Dans la période des pères, il y a finalement deux périodes. La période d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les engendreurs de la nation. Israël, c'est-à-dire Abraham et tout Israël dans la modalité Abraham, et Yitzhak et tout Israël dans la modalité Yitzhak, et Jacob et tout Israël dans la modalité Jacob. Mais à partir de la sortie d'Égypte, c'est une collectivité des enfants d'Israël, les béné Israël, qui est Israël. On passe du singulier au collectif. Et les individus à l'intérieur du collectif ne vivront jamais, sinon par analogie, ce qu'a été l'identité Israël au niveau des pères. C'est ce que je voulais surtout indiquer. Je vous dirai comment ce thème est, pourquoi ce thème est important, parce que très souvent, on a tendance, j'ai lu surtout ça d'ailleurs, je dois dire, dans l'exégèse chrétienne ou musulmane, plutôt que l'exégèse juive, mais malgré tout, je crois que beaucoup de juifs s'en servent et ça mériterait d'être recodé, de dire qu'une des sécurités intellectuelles du récit de la Bible, c'est qu'on nous parle d'hommes comme nous, d'êtres comme nous. Et bien, je crois qu'il faut recoder cela. Les personnages de la Bible ne sont pas des êtres comme nous. Ce sont des hommes, mais un tout autre indice d'identité que la nôtre. Un tout autre indice de profil ou d'envergure d'identité que la nôtre. Dire que Abraham vit la vie de n'importe lequel d'entre nous, que n'importe lequel d'entre nous peut vivre la vie d'Abraham, il faut bien réfléchir avant de savoir la signification de cette formule. L'identité Abraham, l'identité Isaac, l'identité Jacob, que nous étudions dans cette étude, l'identité aussi des grands personnages de la période transitoire dont je vais vous parler, nous dépasse infiniment. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je ne vais pas dire convaincant, mais suffisamment clair. Okay. Vous comprenez à quoi je fais allusion? C'est à la limite, c'est ridicule de dire que tout un chacun, nous vivons l'histoire d'Abraham, nous vivons l'histoire d'Isaac, à condition de beaucoup d'aménagements, d'attendus du langage, ça peut avoir un sens, mais par analogie. Et à la racine, parce que vivre la vie humaine, être de l'identité humaine, à l'indice un être de promesse, et être à l'indice, un être de réalisation, c'est métaphysiquement radicalement différent. Si vous voulez, je vous donne tout de suite la référence. Vous étudiez le commentaire de Rashi et des commentateurs de Rashi sur le verset 2 du chapitre 6 de l'Exode. Vous me donnerez un exemple tout à l'heure pour que je vérifie, mais je pense que la citation est exacte. Bien, verset 2 du chapitre 6 de l'Exode. Vous voyez ce que dit Rashi. La révélation au Père est une révélation de promesse, la révélation au Fils est une révélation d'accomplissement. Alors, le problème, c'est, existons-nous à chaque époque de notre histoire à l'indice des Pères d'Israël ou à l'indice des Fils d'Israël? Est-ce que notre foi est une foi de fidélité à une promesse ou est-ce que notre foi est une foi d'engagement de réalisation? Vous voyez les attendus et les implications de cette manière de définir le problème. Est-ce que c'est clair? Et alors, je disais donc, dans cette période des Avot, qui, dans le sens strict, et là je me base sur trois auteurs principaux, c'est le Shlah, le Maharal et le Peri Tzadik, et la racine étant le Kuzari Judah Lévi. Eh bien, cette période dure six générations, Abraham, Isaac, Jacob, les trois principales, qu'on appelle strictement l'époque des Avot, une Halacha, la Gemara. Alors, elle dit qu'il n'y a de père que les trois. Les trois, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais il y a ensuite les trois générations qui mènent à Moïse. D'Abraham à Moïse, il y a six générations. C'est une époque à l'indice père, mais à l'indice second, si vous voulez, qui fait la transition entre les pères et les fils, si j'ose dire. C'est l'époque des trois générations où, à partir de l'identité singulière des Avot, Israël va se constituer comme peuple. Il y a une époque de transition et qu'on appelle l'époque des Shvatim. Shvatim, c'est le mot hébreu qui signifie des tribus. Shevet. Une tribu, en hébreu, Shvatim. J'avais demandé à ce qu'on me donne un tableau, mais il n'y a pas de tableau. Et les Shvatim, dans le sens strict, c'est les fondateurs des tribus. c'est-à-dire les 12 enfants de Jacob. Alors ça a pris 3 générations pour que les 12 enfants de Jacob donnent naissance au peuple d'Israël qui, comme collectivité, va sortir d'Égypte sous la direction de Moïse, et là commence le temps des fils. Et c'est là que la Torah se révèle en tant que loi. La Torah ne s'est pas révélée en tant que loi avant Moïse. Voilà, là je vous résume brièvement l'ensemble des introductions que nous avons eues dans les 2 séminaires précédents. C'est clair pour tout le monde, même ce qui n'était pas précédemment. Okay. Je vous donnerai simplement, je répéterai parce que je me souviens l'avoir indiqué, une indication d'exégèse sur un verset très connu, Torah tziva lanu Moshe, Morasha ki latiako, vous en souvenez? La Torah, je traduis d'abord littéralement, la Torah que Moïse nous a ordonnée, c'est-à-dire transmise sous forme de loi, d'obligation, de mitzvot, c'est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Alors la dernière formule du verset, l'héritage de l'assemblée de Jacob, récapitule le temps des pères. Le temps d'Abraham, sélection d'identité, c'est pas Ishmaël, c'est Isaac. Le temps d'Isaac, sélection d'identité, c'est pas Ésaü, c'est Jacob. L'assemblée de Jacob est préparée pour recevoir la Torah au temps de Moïse sous forme de mitzvah. Torah tziva lanu Moshe Morasha kilat Yaakov. Le chidouche de la médiation de Moïse comme révélé dans la Torah, c'est qu'elle devient mitzvot. Elle devient tzav, tzibouy. Elle est donnée dans la dimension de l'obligation. Mais elle est déjà possédée par les pères dans la dimension de modalité d'être qu'on appelle en hébreu les midot, la manière d'être. Nous avons étudié cette source. Okay. Les avot ont vécu la Torah, pas sous forme de mitzvot, mais sous forme de midot, c'est leur manière d'être. Pour nous, c'est notre manière de mériter d'être, si j'ose dire, à travers la dimension d'obligation. C'est clair? Donc, alors là, la transition, c'est cette notion du passage de l'individu à la collectivité. L'individu est relié à la Torah comme loi à travers la collectivité. C'est lorsqu'Israël est constitué en collectivité que la Torah s'adresse à lui par le biais, par la médiation de la loi, de la catégorie de loi. Parce que la Torah s'adresse à lui par la médiation du klal, de la collectivité. Et vous retrouvez là un thème très familier de la tradition juive, c'est qu'il ne peut pas y avoir de salut individuel. Mettez ça entre guillemets, c'est une phrase française. Okay. Le lien à la Torah, pour le judaïsme, n'est jamais à l'échelle singulière individuelle. Il est toujours d'abord à l'échelle collective. C'est très important pour le temps où nous vivons, d'ailleurs, puisque nous vivons un temps très très analogue à la sortie d'Égypte. Le sacrifice de Pessah qui est demandé à Israël à la sortie d'Égypte, c'est un sacrifice d'identification des individus par rapport au groupe, par rapport au groupe immédiat, c'est la famille, Betav, la famille paternelle, les familles paternelles par rapport à leur tribu, et c'est... il y a un terme certainement en français, mais qui m'échappe, c'est à travers une régularisation d'état civil, qui est le Korban Pessah, qu'Israël sort d'Égypte. Tant que c'était un agglomérat, conglomérat d'individus, la sortie d'Égypte n'est pas possible. Et l'objectif du Korban Pessah est la filiation, l'identification par filiation, pour qu'Israël puisse sortir d'Égypte en tant que collectivité. Donc il y a un stade transitoire où l'individu se lie à la nation à travers sa communauté. Mais il faut la faire, cette communauté. Il faut la construire. Si ce n'est pas suffisamment clair, je le dirai un peu d'une autre manière. L'expérience du temps d'Égypte, une diaspora dans le sens étymologique. L'identité Israël s'est diasporisée, atomisée, à l'échelle individuelle. C'est la situation d'aliénation totale. Chaque esclave est enfermé dans une individualité hermétiquement close. Il est coupé de son identité collective. Il fallait reconstituer cette identité collective pour que la sortie d'Égypte soit possible. C'est-à-dire, entre l'esclavage d'Égypte et le Matan Torah au Sinaï, il y a le Korban Pessah. Alors l'objectif du Korban Pessah, c'est cette reconstruction de l'entité collective. Vous vous rappelez des lois du Korban Pessah? On devait le manger par famille, s'affilier par famille, se refaire en famille pour pouvoir quitter l'esclavage de l'aliénation individuelle. Je crois que ceux qui ont connu l'univers concentrationnaire, ne serait-ce que par étude, ceux qui l'ont connu eux-mêmes le savent, c'est que ce qu'il y a de plus terrible dans l'aliénation de l'univers concentrationnaire, c'est que on est acculé à une individualité close. C'est bien clair. C'était le d'être avadim. Avadim, c'est cette atomisation d'une identité humaine à l'échelle de d'être singulier qui, à force d'être singulier, n'existe plus comme homme. C'est la prison absolue, c'est l'individualité close, si j'ose dire. Eh bien, je reviens donc à cette étape transitoire des Shvatim. Je crois que deux figures apparaissent. Une, j'y ai fait allusion, celle de Moïse, qui, il est Moïse à lui tout seul, et à lui tout seul, il équivaut à tout Israël. 600 000 consciences, âmes, identités. Mais le premier enseignement qui nous est donné par le Midrash concerne Joseph. Joseph fait partie d'un certain côté des Avot et de l'autre côté des Banim. Par une face de son identité, il fait partie des Avot. Par une autre face, il fait partie des Banim. Je vous donne quelques indications à ce sujet, et puis je suppose qu'on le retrouvera au courant de l'analyse. Et après, je vous donnerai une exégèse, d'ailleurs, de confirmation. C'est que nous apprenons par les Midrashim que de Joseph auraient pu procéder 12 tribus. Et donc, il est au niveau de l'envergure des Avot. Et ce qui caractérise les Avot, c'est qu'ils ont 12 enfants. Je vais le dire en français, mais ce n'est pas le mot. Une symbolique du chiffre, mais symbole, c'est pas le mot. Il y a une nécessité de la construction de l'identité collective. Notre maître, M. Werner, appelait le cube sacré. Le cube sacré a 12 arêtes. Et c'est les 12 diagonales des extrémités du cube qui représentent les diagonales des tribus. Je vais vous donner une équation un peu simple. Elle n'est pas très très exacte, mais ça nous aurait trop de temps pour la mettre au point. Nous avons 3 avot et 4 imaot. 3 fois 4, 12. Mais ça ne passe pas par là, vraiment. Okay, mais pour arriver aux 12 tribus, eh bien, il faut la capacité des avot. Or, Abraham engendre Ishmaël. La Torah nous apprend qu'Ishmaël, tout de suite, a ses 12 tribus. Vérifiez dans le texte. Il y a 12 fils d'Ishmaël qui fondent les 12 tribus de, je suppose, ce qu'on appellerait la Ligue arabe d'autrefois. Et puis, Isaac engendre... Et puis, Isaac. Et alors, l'engendrement d'Isaac est très difficile. Et puis, Isaac n'a pas 12 tribus. Alors, c'est pas encore Israël. Alors, Isaac engendre Ésaü. Ésaü a tout de suite 12 tribus. Et ça se multiplie, comme Ishmaël. Okay. Sa société est fondée, immédiatement. Et on dira, d'une certaine manière, qu'elle arrive à son achèvement avant d'avoir commencé son histoire. Elle n'a pas d'histoire. C'est un autre thème, mais vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et un être qui arrive à la perspective de perfection dès son apparition, c'est un être qui n'a pas d'histoire. Alors c'est ce que le Midrash raconte à propos de Ésaü en particulier, qu'il est né poilu, velu. Poilu, c'est pas joli. Velu, c'est pire. et Rashi explique son nom de Esav, Aïn, Samer, Vav, par le mot de Asouy. Aïn, Samer, Vav, Yud. Fait, complètement fait. Parfait, mais dans le sens de complètement fait. C'est-à-dire, il apparaît à l'existence dans son essence achevée. Alors, il n'a pas d'histoire. D'un certain point de vue, je dirais, il est mort avant de naître, mais il ne le sait pas encore. Okay. Et est-ce que c'est clair? Et vous verrez, Rashi, sur le verset où Ésaü apparaît à l'existence, on l'appela Ésaü, parce qu'il était velu. Alors imaginez un bébé qui naît avec déjà l'apparence d'un vieillard. C'est ça, Ésaü. Okay. Et Asouï, déjà fait. Ça nous renvoie, vous vous rappelez des séminaires précédents, c'est l'identité Caïn qui travaille derrière. Il est déjà canouille, déjà acquis. J'espère que personne d'entre vous s'appelle canouille. Les Algérois. Les Ashkenaz, c'est canouille, mais c'est la même racine. Et alors, c'est cette idée de la perfection dans le sens grec, déjà acquise avant même qu'il y ait une histoire d'engendrement. Là, il y a un thème de réflexion important du Midrash. Et alors Jacob, et vous rappelez, l'engendrement d'Isaac était très difficile. L'engendrement de Jacob a été très difficile. Cette stratégie qu'il faut, par laquelle il faut dépasser une impossibilité, et une impossibilité radicale, et la stratégie de Dieu comme engendreur de l'histoire humaine, et que vont naître deux jumeaux, un Ésaü qui est achevé tout de suite, et Jacob qui le talonne, et qui est l'avenir du temps de l'histoire. Et alors, en fin de compte, Jacob a 12 enfants, et ça n'a pas été facile. C'est tout le récit des chapitres qui précèdent le chapitre par lequel nous allons commencer à étudier. Et en fin de compte, Jacob a 12 enfants, et donc le cube sacré, pour reprendre cette expression, de l'identité Israël va apparaître, c'est les Shvatim. Et alors on apprend d'après le Midrash que Joseph avait une capacité d'identité d'engendreur de 12 tribus. 10 de ces tribus ont disparu dans l'épisode de la femme de Potiphar, je l'annonce en termes sibyllins, okay, pour le moment, très allusif. J'espère que nous aurons le temps cette fois de le voir plus en détail dans le Midrash. Et donc il a eu 2 enfants. Alors ces 2 enfants, qui sont Ephraïm et Manaché, vont prendre rang dans les tribus des fils de Jacob, et la figure de Joseph disparaît des tribus. On pourrait dire de façon plus simple, primitivement, les 12 tribus de Jacob comportent Joseph. Mais voilà que Joseph est occulté, et à sa place, il y a ses 2 enfants, Ephraïm et Manaché, et ensemble, ils forment le nombre des 12 tribus, qui primitivement auraient dû être 13, vous vous souvenez de cela, et puis en fin de compte, il y en a une de plus avec Ephraïm et Manaché, mais Lévi va sortir du compte des 13, il n'y en aura donc que 12. Ça va? C'est suffisamment clair. Et donc, d'un certain côté, Joseph fait partie des Avot. Il a cette envergure de 12 tribus. Et il y a là un thème très important que le Midrash analyse très, très, très en détail. Nous en avons parlé au dernier séminaire. C'est l'ambiguïté, le danger de cette envergure de Joseph. Si Joseph est capable d'avoir 12 tribus, alors peut-être que l'histoire des toladot, des engendrements, de la sélection d'identité qui est le propre de l'histoire au temps des Avot va continuer. Et nous avons étudié que la raison de la rivalité entre Joseph et ses frères s'accrochait là. Les frères de Joseph ont fait passer Joseph en jugement parce qu'il a le risque que son identité disqualifie ses frères et que la sélection d'identité continue par lui, qu'Israël serait les 12 enfants de Joseph et pas les 12 enfants de Jacob. Est-ce que c'est clair? Vous l'avez sur le verset que je vais vous donner tout de suite. Et vous allez prendre votre livre. C'est au début de la paracha de Vayeshev. Donc nous sommes au chapitre 37, et c'est 37 ou 36 encore?
37.
37, oui. Alors, attendez, je vais dans le verset 2. C'est un verset que nous avons étudié au dernier séminaire. Et les toldot Yaakov, vous y êtes, vous suivez? Voici les engendrements de Jacob. Yosef ben Sheva Esrechana, Joseph âgé de 17 ans, et l'histoire commence et continue. Alors, le Midrash lit, d'ailleurs, il y a un livre des Chassidim qui s'appelle comme ça, et le Midrash lit, et les toldot Yaakov, Yosef. Voici les engendrements de Jacob, Joseph. Alors imaginez ce qui éclate. Et c'est là la scène où les frères de Joseph vont faire passer Joseph en jugement, à cause de ses rêves. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ses rêves? Il y avait sa vocation propre, sa vision propre de la vocation messianique. Cela, nous l'avons étudié la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, interrogez-moi. Mais il y avait quelque chose encore de beaucoup plus grave. C'est qu'il apparaît comme une sorte de continuateur de la sélection d'identité que nous avons apprise au niveau d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et oui, sa capacité d'être du côté des Avot fait qu'il disqualifie les Banim. Alors les Banim vont le faire passer en jugement. Et en principe, nous dira le Midrash, il était passible de mort, il devait être condamné à mort, comme traître à Israël. Il va fonder un schisme qui disqualifierait les enfants de Jacob. Il risque de fonder un schisme qui disqualifierait les enfants de Jacob. Et c'est Réhouben, puis Judas qui interviennent pour le sauver. Et vous remarquerez que Joseph est un premier-né, il est le premier-né des enfants de Rachel. Réhouven est un premier-né, c'est le premier-né des enfants de Léa. Et Judas va hériter de l'aînesse, d'une certaine manière, de Réhouven, après la disqualification de Shimon et Lévi, mais c'est encore un autre sujet. J'ai cité cela pour montrer que ce sont précisément les enfants de Léa desquels on pourrait soupçonner qu'ils avaient le plus grand intérêt à ce que Joseph, premier-né de Rachel, disparaisse, qui vont sauver Joseph. Retenez bien cela. Okay. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Oui. Votre silence m'impressionne. Mais en fait, c'est clair quand même. Et alors, je reviens au sujet. Cette envergure de Joseph, qui d'un certain côté fait partie de la vôtre. Et le Midrash l'indique de quelle manière il est capable d'engendrer 12 tribus. Il va en perdre 10. Dans le principe, il ne les a pas engendrés. Cette capacité d'engendrer 12 tribus va se diminuer en 2 tribus, Ephraïm et Ménaché, à cause précisément de ces démêlés avec la femme de Potiphar, que nous allons étudier. Et donc, il disparaît en tant que tribu, et à sa place viennent Ephraïm et Ménaché. Okay. Alors qu'il est né au niveau des Vanim, il est capable d'être parmi les Avot, alors il disparaît. Et ça, c'est le thème d'identité Joseph. Et Joseph a disparu en Égypte, jusqu'à ce que personne ne savait où il était, jusqu'à ce que Jacob entende parler de lui. Et lorsque Jacob entend parler de lui, il est sur le trône de l'Égypte. Il y a là une percée messianique que nous retrouverons d'ailleurs dans l'analyse. Mais imaginez ce blackout de l'histoire de Joseph pendant tout le temps où on ne sait pas ce qu'il est devenu en Égypte. La Torah nous raconte que pendant tout ce temps-là, il vit toute une péripétie historique qui le mène sur le trône de l'Égypte. Et on arrivera en fin de compte à la scène extraordinairement importante à comprendre de la rencontre entre Joseph et ses frères, il faudrait dire entre ses frères et Joseph, et de la rencontre entre Jacob et Joseph en Égypte. Mais pendant tout ce temps-là, Joseph a disparu. Où est-il? Personne ne sait. Il y a un tabou. Je crois qu'il faudrait un mot encore beaucoup plus fort. Une entrée dans la clandestinité radicale. Oui, je pense qu'on peut le formuler ainsi. Son identité de trait d'union entre les pères et les fils fait qu'il est à la fois père et fils. Alors, il doit être du côté du Saint-Esprit, je ne sais pas comment dire ça, mais il a un profil d'identité extraordinairement particulier. Donc, lorsque le pharaon va le diagnostiquer comme étant le prophète des rêves, l'interprétateur des rêves, disons le Freud pharaonique, si on peut dire, eh bien, il va l'instaurer comme étant, je pense à la scène de Assuérus instaurant Mardoché, de la même manière que le pharaon instaurant Joseph, et c'est la même lignée d'ailleurs, Joseph et Mardoché, comme étant le Mishneh Ameler, le second du roi à la place du roi, habillé des vêtements du roi et sur le cheval du roi. Et c'est vraiment très, très parallèle. Alors il y a une consigne qui est donnée aux Égyptiens d'avoir à s'agenouiller devant lui. Et regardez comment le tikkun va être fait par Mardoché, qui ne voudra pas s'agenouiller devant Aman. Il y a pas une analogie, mais un lien entre ces deux récits qui est extrêmement frappant. C'est la même lignée, c'est les enfants de Rachel. Et si nous étions en Purim, je vous dirais que pourquoi Mardoché ne voulait pas s'agenouiller devant Aman, il en avait marre d'hocher la tête. On n'est pas à Purim. Donc. Et alors, en tout cas, pour revenir, et parler français, je veux dire, pour revenir à notre sujet, eh bien, la consigne qui était donnée aux Égyptiens, c'était de s'agenouiller devant Joseph. J'étais en train de réfléchir en le citant que Joseph laissait les Égyptiens s'agenouiller devant lui, alors que Mardoché ne voulait pas s'agenouiller devant Aman. Là, il y a un tikkun à mettre au point. Et le mot par lequel la Torah nous disait que la consigne était donnée de s'agenouiller devant Joseph, c'est le mot de Avrer. Avrer, qu'on utilise maintenant dans les yeshivot, pour dire un élève de Kolelim distingué en sagesse, on l'appelle un Avrer. Okay. Les Avrechim, vous avez entendu parler? Non? Bien, vous entendrez. Dès que vous ferez entrer les yeshivot. Et alors, le Midrash explique qu'est-ce que ça veut dire Avrer? C'est Av Bahorma, Av, père en sagesse, verach, vachanim, et jeune en âge. Av, ver. Vous voyez, av et ben. Mais d'un côté, il est av, de l'autre côté, il est ben. Et ben, dans le sens, en hébreu, c'est très difficile à traduire. Lorsque un nouveau-né vient de naître, on l'appelle harach anolad, rach, tendre. Bon, il faut l'entendre en hébreu. Voilà donc la figure de Joseph qui l'indique. Parmi les Shevatim, il a un profil d'identité qui fait, encore une fois, c'est un des fondateurs de tribus, mais il fait partie des engendreurs des fondateurs de tribus. Il peut être un des Avot, bien qu'il soit un des Banim, et finalement, il va disparaître pour un temps dans une parenthèse de clandestinité jusqu'à ce que son histoire et son projet d'identité réussissent. En attendant, eh bien, nous avons deux autres tribus, c'est Ephraim et Menaché, fondées par ses propres enfants, et donc 13 tribus, mais Lévi, la tribu de Lévi, sort du compte après la force du veau d'or, on retombe sur les 12 tribus. À la fin des temps, l'identité des 13 tribus sera réintégrée. Je dirais peut-être en poussant un peu cette image du cube sacré. Le cube sacré, nous avons les arêtes. Il y a 12 arêtes du cube. Mais le centre d'unité n'est pas suffisamment fort pour les unifier. C'est cette 13e tribu. C'était ce qui a été confié à la tribu de Lévi. Et jusqu'à la fin des temps, elle est en travail. Mais semble-t-il, il lui arrive quelque chose d'analogue à l'identité de Joseph. Tout se passe comme si nous sommes dans un temps de la clandestinité de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi a disparu. Ça ne veut pas dire que la fonction de la tribu de Lévi devait être tenue, même dans l'exil, la fonction des Lévites. Mais semble-t-il, ceux qui auraient dû être capables de tenir la fonction des Lévites, l'unité des tribus, ont préféré fonder les tribus. C'est les fondateurs de sectes. Au lieu d'être l'unité de l'ensemble des tribus, ils fondent des tribus. Bon, ça c'était une échappée dans la sociologie juive contemporaine, mais je referme la parenthèse. Vous avez compris à quoi je fais pas allusion, hein? Et alors, nous revenons donc au sujet. Il y a ce temps des Shvatim. Alors, je récapitule. Les Avot, 6 générations. Mais dans ces 6 générations des Avot, 3, les Avot à proprement parler, et les Shvatim. Et ensuite, le temps des Banim, la deuxième grande période. Bien. Et alors, dans le temps des Shvatim apparaissent deux coordonnées principales, la coordonnée Joseph et la coordonnée Judas. C'était là où nous étions arrivés. Et nous allons tout de suite commencer à lire un premier midrash qui relie les deux premiers versets de l'histoire de Joseph et de l'histoire de Judas dans notre parasha de Vayeshev. C'est-à-dire le premier verset du chapitre 38 et le premier verset du chapitre 37. Est-ce que c'est bien ça? Et le premier verset du chapitre 39, Slicha. Voilà. On nous raconte l'histoire des rêves de Joseph, chapitre 37. On nous raconte le jugement de Joseph par ses frères. Et rappelez-vous, nous n'avons pas étudié très en détail, mais si c'est nécessaire, nous y reviendrons. Cette scène que les exégètes montrent comme étant une pure et simple, impure et pas simple, histoire de jalousie entre frères, est un drame de l'identité de la nation d'Israël, un drame considérable. Joseph, qui rêve une diaspora en Égypte, qui rêve la diaspora d'Égypte. Ça, nous l'avons étudié en détail, c'est clair. Là où le blé pousse, et là où il fait nuit, être les étoiles. Là où le blé pousse, faire des germes, et là où il fait nuit, être les étoiles. Et il y a des thèmes que le Zohar, en particulier, analyse à la manière du Midrash, qui montrent le rôle des Matzdiké Arabim, ceux dont la vocation est de rendre tzadikim les autres. Matzdiké Arabim. Ils sont comparés aux étoiles. Ou matzdiké arabim kakochavim leolam vaï. Vous connaissez le verset. Vers maskilim yazhiru kezohar harakia. Ou matzdiké arabim kakochavim leolam vaï. Or, Joseph rêve de la vocation des matzdiké arabim qui seront kakochavim, comme les étoiles dans la nuit. Quand le monde entre dans la nuit, alors il faut être les étoiles. Et là où le blé pousse, il faut faire des gerbes pour le risque de famine et donner à manger à toute la terre. C'est le rêve de Joseph. Et ayant raconté ses rêves à ses frères décident de le faire passer en jugement. Pourquoi? Parce que, je raccroche à l'analyse de tout à l'heure, il y a le risque d'une poursuite de sélection d'identité. Et comme si les frères de Joseph, je vais prendre le langage contemporain, ne croyez pas que, il me semble que l'analogie est assez serrée, comme si les frères de Joseph vont accuser Joseph de fonder le judaïsme alors qu'Israël existe déjà. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est énorme comme problème. Okay. Et, vous savez à quoi je pense, c'est que nous avons donné au monde l'islam, le christianisme, ensuite l'islam. Et alors on risque de lui donner le judaïsme. Mais il ne serait plus un judaïsme juif, il serait un judaïsme égyptien. Vous voyez à peu près le problème. Et en tout cas, c'est très clair. Là, je me base surtout aux analyses du Schlag, qui montrent bien que ce qui est en question dans ce jugement de Joseph par ses frères, c'est ce risque que les Toladot, qui avaient abouti aux 12 tribus des enfants de Jacob, continuent et passent par les 12 enfants de Joseph, et donc disqualifient les 12 enfants de Jacob, qui viendraient se ranger comme une préhistoire, comme les 12 enfants d'Ismaël ou les 12 enfants d'Esaü. Est-ce que c'est clair? Vous voyez donc quel est le drame qui se joue dans ce procès, d'ailleurs qui se passe dans un endroit que la Torah nomme Dotania, et qui signifie en hébreu l'endroit du jugement, c'est au tribunal. Alors, on a fait passer Joseph en jugement, et il a été condamné à son rêve. On voit en effet que l'exil d'Égypte commence par le fait que Joseph est envoyé en exil d'Égypte. L'exil d'Égypte commence par l'exil de Joseph. C'est clair jusque-là. Et pendant qu'on nous raconte ça, que Joseph va être envoyé comme esclave dans la maison du principal des dignitaires du pharaon, le Saratabahim, Poutifar, Ben, Saratabahim, il faudrait le traduire par, littéralement par le chef des cuisiniers, Tabahim. Et vous connaissez en hébreu moderne comment on dit un cuisinier, Tabah, okay, comme en arabe d'ailleurs, okay, mais c'est de l'hébreu. Et seulement, ça veut dire aussi le chef des sacrificateurs. Okay. On est, cette racine, Tavoah, avec un tête, est très proche de Zavoah, avec un Zaïn, qui veut dire sacrifier. Misbeah, Lisboah. Ça, à Tabahim, à la limite, ça veut dire le grand prêtre. Bon, mais sous les apparences du ministre de l'économie, celui qui donne à manger au royaume. Eh bien, c'est clair, okay. C'est le Saratabahim, c'est Poutifar. Okay. Alors, on nous raconte ça, il est envoyé dans la maison de Poutifar, et c'est la fin du chapitre 37. Je vous lis le dernier verset du chapitre 37, va Medanim et les Midianites, à qui les Ishmaélim, les descendants d'Ishmaël l'avaient vendu, Machlouoto, eux l'ont vendu, et le Mitzraïm, à l'Égypte, les Poutifars, à Poutifar, Séris Paro, eunuque de Pharaon, Saratabahim, traduisant directement le ministre de l'économie en Égypte. Bon, si on vous demande ce que ça veut dire littéralement, ça veut dire le ministre des abattoirs. Enfin, je ne sais pas si c'était à la Villette ou quelque chose comme ça, mais ça joue un grand rôle dans la vision que la Bible nous donne d'une société, etc. Et ce que nous avons en termes modernes, tout simplement, le problème économique. Alors commence le chapitre 38, qui ouvre une grande parenthèse dans l'histoire de Joseph. Oui, l'histoire de Joseph a commencé au chapitre 37. Et j'ai résumé tout ce que nous en a dit de cette histoire de Joseph. Alors, chapitre 38, c'est une parenthèse qui commence avec l'histoire de Judas. Et l'histoire de Joseph reprend au chapitre 39. Et c'est au chapitre 39 qu'il y a l'histoire de démêlé entre Joseph et la femme de Poutifar. Alors qu'au chapitre 38, c'est l'histoire de la relation entre Joseph et Tamar, l'engendrement de la lignée messianique qui aboutira à David par l'intermédiaire de Ruth. Vous y êtes ? Alors on va profiter de ce qu'on est à la veille de Shavuot pour fouiller ce thème un peu plus en détail. Alors prenez, préparez sur vos textes le premier verset du chapitre 38 et le premier verset du chapitre 39. Je vous les traduis et immédiatement après, nous allons lire ce midrash que je vous propose à l'étude aujourd'hui. On le commencera, je suppose, seulement, parce qu'il faudra interrompre à 7 heures pour la conférence, et on le continuera demain après-demain et les jours suivants. Alors prenez le premier verset du chapitre 38. Avec votre permission, j'enverrai un reste parce que il faudrait ouvrir les fenêtres peut-être. Elles sont ouvertes. Je ne sais pas si c'est. Il fait l'ouvrir. Ah, les lampes, oui. On n'a pas de chance avec eux. Attends. Alors, je dis, Vaihi, Baetahi. Or, il arriva en ce temps-là. En ce temps-là, ça signifie pendant que se passe l'histoire de Joseph chez Potiphar. Nous avons tout de suite le parallèle des deux épisodes. Pendant que se passe la tentative de Joseph de trouver femme en dehors d'Israël, et il va littéralement être confronté à l'épreuve de la femme de Potiphar, pendant ce temps-là, Joseph cherche à trouver femme dans le pays de Canaan. Et vous voyez que, en filigrane de ces différents thèmes que j'ai rappelés de façon récapitulative, ce qui se cherche, c'est la suite des engendrements, la suite de Toledot. Pour Joseph, vu sa vocation, la suite des engendrements, c'est une tentative à l'extérieur d'Israël. Et pour Judas, c'est une tentative à l'intérieur d'Israël. Et dans l'intérieur d'Israël, comme je vous avais dit au dernier séminaire, à la fin de l'analyse. Et alors là, nous avons une analogie des deux versets. Le premier, c'est le premier verset du chapitre 38, que le Midrash va étudier. « Vahi ba'etahi » il arriva en ce temps-là. « Vayere d'Yehuda me'etehav » Joseph descendit d'avec ses frères. C'est ça ? Qu'est-ce que j'ai dit, Joseph ? Oui, non, vous avez corrigé. J'ai pas fait exprès, mais vous avez bien fait corriger. Vayere d'Yehuda me'etehav » Juda descendit de la compagnie de ses frères. « Me'etehav » Vayet adish adulami ushmo hira. Et il étendit sa tente, littéralement. Il s'étendit, il planta sa tente jusqu'à, sous-entendu, l'endroit où habitait Ish Adulami, un notable de l'endroit qui s'appelle Adulam, donc qui s'appelle Adulami, Ushmo Hira, dont le nom était Hira. Le mot important que nous avons étudié à travers le Midrash, c'est Vayered, il descendit. Et on pourrait l'interpréter de façon immédiate par le fait qu'il habitait une hauteur et puis il quitte ses frères, alors il descend de la hauteur pour aller ailleurs. Mais le Midrash va tout de suite mettre en évidence un mot inhabituel pour dire il a quitté ses frères. Donc c'est qu'il a aussi un sens moral de chute, du fait de tomber, de chute. Yéred. Yérida en hébreu est employé dès le début du récit biblique, toujours dans le sens d'une chute. Et je ne vais pas vous donner trop d'exemples, ça me prendrait trop de temps, mais gardons le postulat linguistique. La redette, c'est péjoratif. Pas seulement parce que c'est le contraire de alia. C'est dans la langue, c'est ainsi. Okay. Red, ça veut dire descend. Pas seulement dans le sens géographique, mais dans le sens moral. Donc quand même une des références, lorsque Moïse est sur la montagne du Sinaï, et qu'en bas le peuple est occupé à la faute du veau d'or, Dieu lui dit, lech red, va descendre. Rashi traduit « va, descend de ta grandeur ». L'exégèse est très simple. « Va », ça veut dire « descend », puisqu'il est en haut. Et donc « descend », ça veut dire « descend de ta grandeur ». Puisque « va », ça veut dire « descend de la montagne ». C'est clair. Hein, c'est dans ce sens-là. Alors prenez le premier verset du chapitre 39. Nous allons avoir le même terme. Yosef, vous y êtes, et Joseph, Hurad Mitzrayim, fut descendu en Égypte. Et l'on a descendu Joseph en Égypte. Vous voyez, Judas descend du niveau où sont ses frères, et Joseph fut descendu par force. C'est un passif. Il est descendu en exil. Alors, la descente de Judas, on va voir ce que les Midrash en dit, elle est volontaire. Alors que la descente de Joseph, elle est imposée, si j'ose dire. Mais il suffit de recoder, de diagnostiquer, d'après ce que nous avons vu précédemment. Okay. C'est-à-dire, on nous indique très, très rapidement une sorte d'analogie de commencement du destin de Joseph d'un côté et de Judas de l'autre, dans la recherche d'un avenir des engendrements d'Israël. Voilà, alors maintenant prenez le texte du Midrash. Alors le Midrash est un Midrash qui est sur le verset 1 du chapitre 38 de l'histoire de Judas. Alors nous allons lire ensemble. Je ne vais pas vous traduire toutes les phrases, ça nous prendrait trop de temps, mais vous suivez avec moi si vous avez un crayon, on va dire l'essentiel. Bahi, Baetahi, vous l'avez à la dernière ligne de la page 31. Vous êtes page 31, la dernière ligne en bas. Bahi, Baetahi. Je vous rappelle le sens du verset. Et il arriva à cette époque, en ce temps-là, c'était pendant que se passe l'histoire de Joseph chez Potiphar. Mais ça concerne Judas, que Judas fut descendu d'auprès de ses frères. Velo haya tsarir karia le memar ela. Or, le verset n'avait nécessité de dire que Ve Yosef ourad Mitzrayma.